bien, bonsoir à toutes et à tous. En regardant la vidéo là de ces deux baptêmes, je pensais aux deux baptêmes qu'on a eu dans l'église à Saint-Gaudens cet été. Et on a attendu jusqu'au mois de juillet avant de baptiser une de ces personnes parce qu'on voulait que l'eau soit un peu plus chaude parce que ça descend directement des Pyrénées, c'est la fonte des neiges qui alimente la rivière là, donc elle est froide. Et on a appris comment faire attendre juillet et août parce que j'ai baptisé quelqu'un l'année précédente au mois de novembre. Et bon, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'était froid. Et on s'est dit, plus jamais encore, parce que je ne pouvais même pas parler dans l'eau. J'avais perdu le souffle et tout. Ça fait pas très, je ne sais pas, sérieux quand le pasteur est dans l'eau en disant, je baptise. Mais bon, on a réussi. Et la pauvre personne ne parlait pas pendant 5-10 minutes après le baptême, parce que... Mais bon. Dieu est bon, et il nous fait grandir, et il nous fait comprendre comment il faut faire, parfois, et améliorer les choses. Donc, gloire à Dieu pour cela, il nous... Il accomplit une œuvre magnifique. Je vous invite ce soir à regarder un verset que nous avons lu hier soir dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, c'était le verset qui m'a vraiment marqué peut-être le plus hier soir. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Nous allons juste faire la lecture de ce verset rapidement et nous allons prier et regarder la suite de ce message. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli cette semaine avec toutes les réunions qui ont eu lieu ici sur la région parisienne, Seigneur, avec la CBI, les réunions le soir ici avec le congrès de l'ABF, les assemblées générales, Seigneur. Seigneur, tu nous as accompagnés à travers tous ces moments-là, Seigneur. Et Seigneur, nous savons que tu es toujours là parmi nous ce soir. Et Seigneur, je prie que tu me remplisses de ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu m'accompagnes, que tu me donnes les mots parfaits que tu veux que je partage avec ceux qui sont là. Seigneur, comme on a vu dans ce verset, Seigneur, aide-nous à travailler avec ferveur, Seigneur, à maintenir cette unité que nous avons en toi. La source de cette unité, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui nous unis, c'est toi qui nous soude ensemble, c'est toi qui nous permet d'avoir cette communion fraternelle pour pouvoir faire et avancer dans l'œuvre que tu nous as confiée. Donc, Seigneur, aide-nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Il y avait un jeune couple qui s'est marié et c'était des jeunes dans la foi aussi. Et ils venaient de se convertir juste avant qu'ils se sont mariés. Et en étant des jeunes chrétiens et un jeune couple marié, ils se sont dit, mais on s'aime et on a le Seigneur dans notre vie. Et donc, ils avaient fixé dans leur tête qu'ils n'allaient jamais avoir de soucis ou de disputes dans leur couple. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, le premier jour après le mariage, tout allait bien, tout était parfait, la lune de miel, vous savez comment ça se passe, c'est nickel. On rentre de la semaine partie en vacances et bon, le premier matin, pour une raison ou une autre, la femme n'apporte plus le petit-déj au lit pour saluer son mari. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a changé. Et le mari n'ouvrait plus la porte de la voiture pour la femme. Et les deux commençaient à remarquer des petits soucis à droite et à gauche. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, mais ils se sont dit, bon, on est chrétiens, on s'aime, on ne va pas se disputer. Et deuxième jour, dispute. Troisième jour, retrouver la paix. Quatrième jour, dispute. Mais pourquoi tu manges comme ça? Mais utilise le couvert, quand même. Quatrième jour, la paix. Cinquième jour, sixième jour, dispute. Et les jeunes mariés ne comprenaient pas, mais Seigneur, pourquoi on se dispute? Mais Seigneur, pourquoi on s'aime, on t'aime, on veut te servir, mais pourquoi nous tombons dans ces désaccords dans notre couple? Et en fait, ça avait déstabilisé tellement la jeune mariée, cette jeune femme dans le couple, qu'elle, à un moment donné, pendant une dispute, elle a dit, mais chérie, viens, on va juste prier que le Seigneur ramène un de nous auprès de lui, comme ça, on a la paix. Et comme ça, je vais vivre chez ma mère. Parfois, l'unité, c'est difficile à retrouver. Même quand on s'aime, il est difficile de retrouver l'unité, d'être soudés ensemble, comme on a entendu, marcher d'un seul même pas. Et c'est quelque chose, comme on a vu dans ce verset en Éphésiens 4, il faut s'efforcer à trouver cette unité dans l'esprit, et par le lien de la paix. Et il est compliqué d'avoir la possibilité de travailler ensemble et être vraiment unis. Vous savez, Mélisse et moi, ah bon, je suis content, elle n'est pas là, donc ne l'appelez pas en rentrant là, parce que je ne veux pas entendre des histoires demain matin quand j'arrive. Mais Mélisse et moi, ça fait plus de 15 ans qu'on est mariés. Et quand on s'est mariés, on a eu notre première dispute à peu près 2 ans après qu'on s'est mariés. Non, c'était assez rapide. Et bon, c'était l'heure d'aller au lit. Et donc, Mélissa et moi, on s'est disputés. Je ne me rappelle plus du tout de ce que c'était. Et c'était pour rien du tout. Et on s'est disputés. Et je crois que j'ai raconté cette histoire à Tim et Elisabeth à un moment donné. Et bon, on s'est mis au lit et on continuait. Vous savez comment ça passe. Ça passe dans un couple. Et elle a pris son oreiller et dit, bah, si c'est comme ça, je vais dormir sur le canapé. Et moi, j'étais dans le lit. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Vous savez, il est dur d'avoir l'unité dans ces moments-là. Elle était sur son lit et moi, je suis sorti de la chambre. On dormait dans un appartement à 2 pièces. Donc, j'ai ouvert la porte, j'ai traversé l'appartement rapidement. J'ai pris Mélisse dans mes bras, je l'ai enlevée du canapé. Je suis rentré dans la chambre, je l'ai jetée dans le lit en disant, si jamais tu sors... On était unis, mais pas vraiment unis. C'est dur. On peut faire semblant. Ce soir-là, on faisait semblant. Hein? Ce n'était pas une unité. Hein? On peut faire semblant parfois. Mais le Seigneur ne veut pas ça. Il veut que, comme on a eu l'illustration là, cette semaine, c'est que quand on marche ensemble, quand on avance ensemble dans l'œuvre de Dieu, qu'on ne voit pas de séparation entre nous. On est là, on serre le coude et on est ensemble. Il n'y a rien qui peut nous séparer. Tout dans un couple, dans une famille. Dieu veut cela pour nos églises, il veut cela pour nos couples, il veut cela pour notre famille. Mais comment arriver à cela? Surtout après des dégâts, surtout après des séparations, des déchirements, des choses qui explosent. Comment remettre ensemble les morceaux pour retrouver l'unité? Il n'y a pas un secret. C'est du travail. Regardez avec moi Philippiens, chapitre 2. Nous allons voir comment rétablir ou comment restaurer l'unité ici. Il y a juste quelques principes que nous allons voir ici dans ce passage en Philippiens, chapitre 2. Et nous allons regarder les 11 premiers versets de ce chapitre. Mais les principes que nous retrouvons vont nous permettre de reconstruire une unité qui a été perdu. Reconstruire quelque chose qui a été complètement détruit, soit au sein de nos églises, soit au sein de nos familles, dans nos couples. Parce que je crois ceci. Si Dieu nous demande d'être unis, d'être soudés ensemble, il est possible de retrouver une unité. Regardez avec moi ici les deux premiers versets de Philippiens chapitre 2. Nous retrouvons la motivation pour l'unité. Qu'est-ce qui va nous permettre d'être motivés à restaurer l'unité au sein d'un couple ou d'une église. Si donc il y a quelque consolation en Christ, et s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, voici ce que c'est l'unité, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Si vous voulez savoir et comprendre ce que c'est vraiment l'unité, le résumé c'est là en verset 2. Et donc qu'est-ce que nous voyons, qu'est-ce que l'apôtre Paul présente à l'église de Philippe qui devrait les motiver à chercher cette unité, d'avoir la même âme, un même sentiment, un même amour? Qu'est-ce que c'est? On le retrouve en verset 1, là où il dit les quatre fois « si, si, si ». Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez-moi joie parfaite. Qu'est-ce qu'il dit ici ce qui devrait nous motiver à restaurer cette unité qui était perdue? Qu'est-ce qui devrait nous motiver à reconstruire le couple ou l'église? C'est que nous avons été consolés en Christ. Nous avons été soulagés dans la charité ou l'œuvre de Christ, l'amour de Christ. Nous avons cette union, communion dans l'esprit. Ici, le « si », ce n'est pas un point d'interrogation. Vous le savez, n'est-ce pas? C'est « puisque vous avez été consolés ». Puisque vous avez été soulagés dans la charité et vous avez cette union d'esprit, et compassion et quelques miséricordes. Cherchez l'unité. Paul dit ici quatre fois, puisque vous avez ces choses, soyez motivés par cela en cherchant l'unité parmi vous les saints. Je regarde ceci et je regarde la première phrase de verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ. Quand je regarde cela, je regarde à ma vie et je vois que oui, la consolation en Christ, mais quelle consolation? N'est-ce pas la consolation avec Christ au moment du salut? Mais aussi la consolation où il vient auprès de nous pour nous accompagner. Il est là. Soulagement dans la charité. Regardez, les frères et les sœurs nous aiment. Et on aime les frères et sœurs. Et on voit cet amour. Vous savez ce que c'est la charité? C'est l'amour en action, n'est-ce pas? On a l'idée en entendant le mot charité, oh le pauvre, tiens, oh il n'a pas mangé aujourd'hui, tiens, tenez. Non, c'est pas, oui ça c'est la charité, mais la charité c'est juste l'amour en action. Et donc on a vu l'amour en action en Christ, n'est-ce pas, quand il est mort sur la croix pour nous sauver. On a vu l'amour de Christ dans la vie des autres. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas s'unir autour de cela? Et autour de la vérité de cette consolation en Christ. Ici, il dit aussi, s'il y a quelque union d'esprit. C'est le même mot qu'on va traduire ailleurs comme communion. L'esprit nous permet d'avoir cette communion. Vous entrez ici dans l'église et vous partagez avec les frères et les sœurs. Et qu'est-ce que ça devrait nous motiver à faire? Protéger cette communion, protéger cette unité. Parce que c'est l'esprit qui nous permet d'avoir cela.
Dans Jean chapitre 17, versets 20 et 21, je vous invite à chercher ce verset, Jean chapitre 17, versets 20 et 21. Nous avons fait référence à ce verset, bien sûr, à plusieurs reprises cette semaine. Jean 17, verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Une autre motivation, oui, on a vu ces bénédictions que nous recevons en Christ, cette communion, cette consolation avec Christ, cet amour qui nous inonde et les autres choses là en Philippiens chapitre 2. Mais une autre chose qui nous motive à rétablir, remettre en place cette unité que nous avons perdue, regardez ce que Jean dit ici. « Seigneur, ou Père, je prie qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. » Et regardez la fin de verset 21, « Qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Regardez, je ne sais pas si on peut trouver une plus grande motivation d'être unis, être soudés ensemble, ou si on a perdu cette unité, de la restaurer, sauf dans ce que nous voyons dans cette dernière phrase. Le monde nous regarde, et quand il nous voit se disputer, ils disent ouais, « Moi, je n'ai pas besoin de ça. » Christ a prié qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, Père, pour que le monde puisse croire que tu m'as envoyé. Qu'ils viennent au Seigneur, qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur. Mais quand je me dispute avec David, et on est dans la rue, et le temps monte un tout petit peu, et les gens voient, et ça, c'est les chrétiens. Mais ça, c'est les pasteurs. Qu'est-ce qui va se passer? Mais quand ils voient, même après une dispute, on ne marche peut-être pas. C'est ça, mais bon. Au moins, ensemble, qu'on est unis et qu'on avance, ils vont dire, ah, là, ils ont quelque chose de différent, hein. J'en ai besoin. Je connais une situation qui est assez triste. Un jeune pasteur s'est éloigné du Seigneur. Et l'église là où il servait, il est toujours dans la région. Et les témoignages sont détruits. L'unité est détruite. Et ce qui est apporté autour, c'est que ça, on a assez de ça déjà chez nous. Hein. Pourquoi aller chercher dans l'église plus de problèmes? Une des premières prières que j'ai appris à prier, vous savez, les parents, c'est à vous d'apprendre à vos enfants comment prier. Mais une des premières prières que j'ai jamais vraiment, vraiment prié, pas juste Seigneur bénis le repas, mais vraiment prier, entrer en communion avec Dieu, c'était pour le salut de mon grand-père. Ma mère s'est convertie quand elle avait 11 ans. Ma grand-mère s'est convertie un tout petit peu plus tard, mais mon grand-père a refusé de venir au Seigneur. Elle a dit, mais toute la semaine, je passe mon temps avec ces mêmes personnes que vous rencontrez à l'église, mais là, pendant la semaine, ils sont exactement comme moi. Ils parlent exactement comme moi, ils font les mêmes 400 coups comme moi, ils sortent comme moi la nuit, ils font tout pareil. Et le dimanche, ils essayent de bien se tenir. Mais pourquoi je vais faire quoi que ce soit quand ils vivent comme moi toute la semaine et juste le dimanche matin, c'est des bons chrétiens? Non. Ma mère a prié pendant plus de 40 ans.
pour le salut de mon grand-père. J'ai prié pendant plus de 20 ans pour le salut de mon grand-père à cause du témoignage soi-disant chrétien. Mes amis, je vais vous dire ceci. Quand les gens nous regardent, ceux du dehors nous regardent et ils voient que nous sommes divisés, ils voient que nous avons des disputes dans notre sein, ils voient qu'on sympa, le dimanche matin, on arrive à l'église et on est tout content, mais on franchit le seuil de la porte et le visage, c'est triste. Et on bonjour, et on salue avec le Saint-Baiser parce qu'on est obligé dans l'église. Mais les gens voient cela. Et ils disent, mais non, je ne veux pas. Alors si ça ne nous motive pas de régler ces problèmes, de régler ces soucis que nous avons dans nos églises, dans notre famille, qu'est-ce qui peut nous motiver, sauf l'amour pour ces âmes perdues? Il y a une autre chose qui devrait nous motiver, et David a fait référence à cela, même dans la présidence. Regardez dans 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Verset 7. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce qu'il dit ici? Si nous marchons dans la lumière, tout comme Christ est lumière et il est dans la lumière, nous serons en communion. Oui, avec Dieu. Mais ça peut s'appliquer à nous. On sera en communion avec nous tous. Si je marche droit et je fais exactement ce que Dieu me demande de faire et je suis les principes qu'il me montre à travers sa parole et mon frère le fait aussi, je vais pouvoir marcher en communion, en unité avec lui. Mais si je m'éloigne, je vais perdre cette communion. Mais regardez, ce que moi je vois l'application de ce verset, c'est que si je ne suis pas en communion avec David, je suis désolé, tu es visé ce soir, si je ne suis pas en communion avec David, je ne suis pas en communion avec Dieu. Je ne peux pas me permettre de dire, oh, moi et Dieu, tout va bien. Comme moi et David, on ne va pas bien. Je pense à ma situation, mon église, petites épreuves que nous traversons. Est-ce que je suis en communion avec Dieu? Et honnêtement, je dois dire, pas complètement. Comme tout dans chaque église, il y a des soucis. Nous en avons aussi chez nous. Je ne sais pas, quand je vois ceci, et je comprends l'application pour ma vie. Si je ne suis pas en communion avec mon frère qui marche droit, d'accord? Comprenez bien ce que je veux dire ici. Qui est un bon chrétien. Si je ne suis pas en communion avec lui, je ne suis pas en communion avec Dieu. Mais ça veut dire que je vais perdre ces moments intimes avec mon Seigneur. Ce temps que je passe dans la lecture de sa parole, où son Saint-Esprit me parle, me convainc de mon péché, me montre comment il faut faire. Ce temps où je vais passer dans la prière et je vais entendre la voix de Dieu me montrer et me révéler ce qu'il faut faire. Pas vraiment, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je vais perdre cela. Parce que je veux le piano de ce côté au lieu de celui-là. Si ça ne me motive pas à rétablir ces liens qui ont été détruits, pourquoi je cherche même à aller plus loin? Je crois, si vous êtes
comme moi. Je crois que je suis une personne assez normale. Je crois, en tout cas. Tristan ne dit rien. Je crois que je suis assez normal. Il y a des personnes que je n'apprécie pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne les apprécie pas. Mais de ne pas apprécier quelqu'un jusqu'à aller au point où je repousse la personne, je cause une division au sein de ma famille, de mon couple, dans mon église, dans notre union d'église. Qu'est-ce que je fais? Nous voyons alors ici dans ces premiers versets de Philippiens, en Jean 17 et en 1 Jean chapitre 1, ce qui devrait nous motiver à rétablir cette unité qui peut être perdue parfois. Ces bénédictions que nous avons reçues en Christ dans Philippiens, d'attirer des âmes perdues au Seigneur en Jean 17 et cette communion avec notre frère, notre sœur et avec notre Dieu. Mais nous retrouvons aussi en Philippiens chapitre 2 les moyens pour arriver à cette unité, pour atteindre cet objectif, avoir l'unité au sein de notre assemblée. Ou comment remettre en place cette unité? Regardez encore Philippiens chapitre 2 et nous allons voir versets 3 et 4. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ici, l'apôtre Paul, encore en faisant référence à cet appel à l'unité dans le verset 2, il dit comment atteindre cet objectif. C'est qu'il ne faut rien, il ne faut faire rien par esprit de parti. Moi, étant un pauvre américain, je ne comprends pas cela en français. Esprit de parti, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez me répondre ce soir. C'est que nous, esprit de parti. Moi, j'ai une idée, j'ai regardé dans la langue originale. Donc,
c'est comme quand il est écrit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos.
C'est ça, hein? Je suis de Paul, je suis de Apollos, je suis de Christ. Vous savez, en fait, ce même mot est utilisé dans le langage courant à l'époque, par des hommes politiques. Et moi, et il faut voter pour moi, il faut que je sois élu, et moi, pour se mettre dans une place au-dessus des autres. Se penser supérieur, plus grand que les autres. Et donc, on attire l'attention vers nous ou vers une autre personne pour causer une division. Ici, pour éviter ou ne tomber dans ce piège de la division et pour remettre en place cette unité qui pourrait être perdue si facilement, il faut éviter cet esprit de parti en disant « moi, je ». Encore, n'est-ce pas l'orgueil, comme on a entendu, ou se faire plus grand, ou penser avoir des idées que moi je suis plus important, moi j'ai plus de valeur que la personne à côté, moi je. Et si l'apôtre Paul dit, pensez aux autres d'abord. N'ayez pas cet esprit de parti, mais aussi, il ne faut pas avoir cette vaine gloire. Vous avez jamais chanté la doxologie? Vous savez, la même racine pour doxologie, c'est pour ce mot, vaine gloire. Kenodoxia, gloire, doxia, la gloire. Mais ici, c'est une gloire qui n'a pas de fondement. C'est un souffle d'orgueil et la première personne qui passe à côté avec un... Et... Il n'y a rien. Vous savez, si on veut ne pas avoir ce souci de division, de dispute, de quoi que ce soit au sein de l'Église, il ne faut pas se croire avoir cette même gloire. Quelle est l'application de ceci dans une famille? Je pense à ma femme en premier, et à mes enfants, avant le ministère. Je sacrifie pour le ministère, mais si je sacrifie plus pour le ministère que pour ma propre famille, ça va causer des divisions au sein de la famille. Et si je perds ma famille, je perds tout. Quand un mari comprend, connaissait pas cette vaine gloire qui est importante, ce n'est pas ce qu'il dit, cet esprit de parti. Il va mettre en premier son épouse, ses enfants. Quand un membre de l'Église va comprendre cela, il va mettre les besoins d'un autre membre de l'Église avant les siens. Quand une autre Église veut rétablir l'unité avec une autre Église, quand ça a été perdu, elle va chercher la réconciliation même avant l'autre y pense. Moi, je suis rien. Pourquoi pas chercher la réconciliation? J'apprécie bien comment l'apôtre Paul a dit ici, en fin de verset 3, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Au-dessus de moi, plus important que moi. Je passe en dernier. Les autres sont plus importants. Vous savez, on met l'accent beaucoup sur ce que moi je dois faire. Mais si tout le monde faisait ça, vous imaginez la bénédiction qu'on pourrait vivre dans nos assemblées? Vous imaginez l'œuvre qui pourrait être accomplie par nos églises? Vous imaginez les âmes qui seront attirées au Seigneur Jésus-Christ? Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'apôtre Paul ne dit pas, oubliez vous-même, mais pensez aux autres, d'abord et après à vous. Nous voyons alors les motivations. Comment atteindre ou restaurer cette unité? Mais dans la suite des versets que nous allons voir, nous voyons l'exemple parfait. Regardez l'exemple que l'apôtre Paul donne. Il ne met pas lui-même ici en tant qu'exemple, mais il met l'exemple parfait. Regardez verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Christ est cet exemple pour nous. Il est cet exemple à suivre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ici, moi, je ne vais pas décortiquer ces versets, mais regardez, il existait en forme de Dieu. L'idée, c'est qu'il était exactement comme Dieu. Donc, s'il est exactement comme Dieu, il est Dieu. Mais vous avez remarqué que l'apôtre Paul dit il était Dieu. Et après, il était en exacte forme, copie conforme de Dieu. Et il utilise le même mot pour dire ce qui s'est passé. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme. Il est devenu exactement, parfaitement homme. Pour me sauver. Et donc, moi, je vois ça. Christ, le Créateur, celui qui... Le Dieu Tout-Puissant, qui était en forme de Dieu, qui était Dieu, s'est abaissé au point où il me ressemble dans son humanité. En n'oubliant pas qu'il a gardé sa divinité. Mais il était comme moi. Il s'est mis à notre place. Il était obéissant. Et il est venu accomplir la volonté parfaite de Dieu. Il s'est humilié. Et moi, je vois cet exemple, ce modèle, ça me montre, regarde, David, mets-toi à la place des autres. Essaye de les comprendre et leur situation. Tout comme Christ a fait la même chose, humilie-toi. Ne crois pas que tu es plus important. Ne te fais pas des idées que tu es plus grand que les autres. Reste humble. Qu'est-ce qu'on a entendu la phrase? Satan utilise un homme ou une femme orgueilleux ou orgueilleuse pour semer la division chaque fois. Et on aurait pu dire que la clé pour tout ceci, pour restaurer l'unité, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Quand quelqu'un m'attaque par rapport à une décision que j'ai prise dans l'église, qu'est-ce que je devrais faire? Oui, bon, peut-être défendre ma position, oui, d'accord, mais dans l'humilité. Quand j'ai fait une bêtise, dans l'humilité, je devrais le reconnaître dans mon couple. Arrête, désolé chérie, j'ai oublié encore. Nous rigolons un tout petit peu à ceci. Comment les églises baptistes se propagent? N'est-ce pas? Il n'y a même pas besoin de finir la blague. C'est par des divisions et des scissions. Quelle honte. Que nous sommes connus pour cela. Quel est le témoignage que nous apportons? Je ne suis pas en train de dire l'unité à tout prix. Vous vous rappelez, premier jour de mariage, on est unis. C'est beau et magnifique. Et c'est ce qu'on entend, on se tend vers cela, n'est-ce pas? Mais parfois, il y a cette unité où on prend notre épouse. Tu ne sors pas de ce lit. Quand... Parfois, c'est difficile. Il y a l'unité, il y a l'unité. Peut-être je vais vous choquer un tout petit peu ce soir, mais un jeune pasteur vient d'être installé
dans l'église à Pentecôtiste à Saint-Gaudens. Je l'ai rencontré. Et vous savez quoi? On arrive à retrouver une certaine unité. Nos églises ne se réunissent pas. J'étais invité 100 000 fois. David, viens prêcher chez nous, ça va être bien. Mon église va apprécier. Non. Pas possible. Mais vous savez quoi? Il y a une unité qu'on peut retrouver au sein de notre alliance, qu'on devrait avoir. Il y a cette unité parmi les autres frères, d'accord? On peut entretenir cette unité aussi, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de discernement, avec beaucoup de sagesse. Mais quand je le croise dans la rue, « Hey, salut frère, comment vas-tu ?» On ne va jamais mettre nos églises ensemble. On ne va jamais faire une campagne d'évangélisation ensemble. On ne va jamais faire sortir nos jeunes pour une activité ensemble. Non, on ne peut pas être unis dans ces domaines, mais on est unis en Christ. Et c'est mon frère. Et je ne cherche pas la bagarre, la bataille. Même si on a discuté de ces points difficiles. Et il dit, mais David, il m'a posé cette question. David, quelle est ton impression de moi et mon église? Comment répondre à cette question? Sans causer des divisions. Bon, frère, tu sais, je crois que le parler en langue est vrai, mais accompli et fait. Et ça n'existe plus. Et ainsi de suite, on peut entrer dans toutes les discussions là-dessus. Mais vous savez, ce frère n'a jamais entendu une explication cohérente avec la parole de Dieu. En se servant de la Bible, si j'étais parti en disant « c'est comme ça et on ne va jamais se rencontrer et on ne va jamais se parler, qu'est-ce que je... » Il n'aurait jamais compris. Et vous savez quoi? En sortant de cette conversation, il a dit « Ah, tu sais, hein, ça fait réfléchir. Il faut beaucoup de discernement, là, dans cette unité. Mais aussi... au sein de notre mouvement, il faut avoir cette unité. Tim et Elisabeth ont été une énorme bénédiction. Quand Mélissa et moi nous sommes arrivés, le premier week-end, on a atterri ici à Paris. On a loué une voiture, on est descendu et le samedi, le jour après, on a trouvé notre appartement, notre maison sur Saint-Gaudens et on a travaillé côte à côte avec Tim et Elisabeth pendant des années. J'ai dit ceci à Tim à plusieurs reprises, mais au départ, vous comprenez le choc culturel. J'ai regardé, mais qu'est-ce qu'ils font? Et mais pourquoi ils font comme ça? Mais ça, non! Dans mon esprit, ça criait « Non! C'est pas bien! » Merci Seigneur qu'il ne m'a pas permis de dire de faire quoi que ce soit, perdre de l'unité. Ils m'ont montré comment faire. Bon, je fais des bêtises, c'est pas de leur faute, mais bon, c'est de ma propre faute maintenant. Hein. Ils nous ont aidés énormément à s'intégrer ici en France. Ils nous ont énormément aidé à s'adapter à la vie ici en France. Mais si j'aurais dit dès le départ, non, c'est pas comme ça, et non, je veux rien entendre, en étant issu du même mouvement, de la même église, des mêmes convictions, je serais jamais resté ici en France. Et quand nous, les frères en Christ, les pasteurs, quand dès le départ, on dit « Non, c'est pas comme ça parce qu'on n'apprécie pas le personnage, on n'apprécie pas... » et on perd des possibilités d'établir quelque chose qui va durer. On perd la possibilité de construire quelque chose. Pourquoi? Taisons-nous. Écoutons. C'est le même principe pour restaurer l'unité. Le modèle, c'est Christ. Il s'est humilié. Comment entretenir l'unité après qu'elle a été restaurée? Moi, je regarde en Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Ici, dans les premiers versets, en fait, nous voyons que Jacques explique que la sagesse du monde nous donne les luttes, les querelles, les divisions, plus ou moins. Regardez verset 1 de Jacques, chapitre 4. D'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Et ça continue. Et donc, nous voyons que la sagesse de ce monde, ou ces impulsions de notre chair, ces désirs de notre chair, nous amènent juste des mauvaises choses, des luttes, des querelles. Mais en verset 7 à 10, nous voyons ce que la sagesse divine nous donne. C'est l'unité. Regardez en verset 7, et nous voyons 10 impératifs, 10 commandements plus ou moins ici en verset 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez-vous vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Et voici la clé encore pour l'unité. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Qu'est-ce que Jacques dit ici? Il dit pour retrouver cette humilité, retrouver la possibilité de ne pas avoir des querelles, des disputes, des luttes, dans notre propre corps, mais aussi parmi nous, les autres. Quelle est la première chose qu'il faut faire? Se soumettre à Dieu. Chercher la volonté et se soumettre à lui. En verset 6, nous voyons un mot lié avec ceci. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Le mot « résiste »,« résister », c'est lié la même racine avec « se soumettre », mais deux prépositions différentes au début du mot dans la langue originale. Et donc l'idée c'est que ici avec « soumettez-vous », ne résistez plus à Dieu. Ne luttez plus contre Dieu et de ce qu'il veut accomplir en vous. Soumettez-vous à sa volonté parfaite. Si nous voulons maintenir et entretenir une unité, cherchons la face de Dieu et soumettons-nous à Dieu. Chaque fois, arrêtons de batailler contre sa volonté et lutter contre ce qu'il veut accomplir. Après, nous voyons le deuxième commandement, résister au diable, n'est-ce pas? C'est le seul impératif en référence au malin. Les autres, c'est par rapport à Dieu et notre réponse à lui. Et en fait, ça me montre que parfois, on dit, ah, il m'a tenté. Mais la plupart du temps, c'est pas lui, c'est moi-même le problème. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, approchez-vous de Dieu. Comment s'approcher de Dieu? La prière, la lecture de la parole. Pour que je retrouve l'unité dans mon couple, il faut que je sois uni avec le Père. Si je ne m'approche pas de Dieu, je ne peux pas m'approcher spirituellement de mon épouse. Il est impossible. C'est quand la dernière fois que nous, pasteurs, nous sommes approchés de Dieu et de sa parole et juste passer un bon moment dans l'Écriture et pas en train de chercher un message et pas en train de préparer l'étude dans notre tête et ne pas en train de dire « Ah, ça ira bien pour celui-là. Hein? » Ah, je vais noter celui-là parce que il a besoin d'entendre ça. C'est un défaut chez nous, hein, n'est-ce pas? On est humain. Mais je ne sais pas. C'est quand que vous avez ressenti la présence même de Dieu dans vos cultes personnels? Quand nous sommes entrés en communion avec Dieu, ça va déborder. Et ça va affecter les relations autour de nous